Un Dieu merveilleux, un Dieu glorieux, toujours disponible pour nous. Nous allons nous préparer à recevoir sa parole et je vous prie donc d'incliner vos têtes dans la prière. Après ces moments magnifiques, ces moments merveilleux que nous venons d'avoir, Seigneur, avec toi, ces moments qui nous ont permis d'aller au-delà du voile pour nous incliner en ta présence. Après t'avoir encensé, Seigneur, avec notre louange, notre adoration, après, Seigneur, t'avoir exprimé nos sentiments, nous voici maintenant, Seigneur, prêts à recevoir ta parole. Nous savons, ô Dieu, que cette parole est spirituelle, cette parole nous vient tout droit, Seigneur, du Saint des Saints, du trône de la grâce. Cette parole nous vient, Seigneur, de ta part, et pour cela nous avons besoin, Seigneur, que tu nous assistes par ton esprit, que tu nous donnes cette capacité, ô Dieu, cette habileté spirituelle pour pouvoir la recevoir et puis ensuite la mettre en pratique. Bénis cette parole alors que ton serviteur s'apprête à la proclamer. Bénis chacun de nous, Seigneur, et que cette parole trouve de très bonnes dispositions de cœur dans chacun de nous. Merci pour tout. Parle-nous, fais-nous du bien, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bon appétit. Aïe, 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 aïe. Il y en a qui ne sont pas convaincus que la parole de Dieu est la véritable nourriture dont notre âme a besoin. Si c'est une nourriture, ben je me dois, par politesse, par amour fraternel, par charité chrétienne, de vous souhaiter un très bon appétit. Alléluia. Et gloire à Dieu. Nous allons aujourd'hui parler de la prière. Donc, la prière d'intercession dans l'Église. Donc voilà le thème de ce dimanche matin. Parler de quelque chose qui est vital pour l'Église, parler de cette vocation que le Seigneur nous adresse, c'est-à-dire d'être des hommes et des femmes qui se tiennent devant lui afin d'intercéder pour différents besoins selon qu'il nous conduit. Nous allons lire dans l'épître de Jacques au chapitre 5, Jacques chapitre 5 à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Nous lisons. Quelqu'un parmi vous, ça commence par une interrogation, ça commence par un questionnement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Si je posais cette question à l'auditoire, à chacun de vous ce matin, à vous tous ici, je suis convaincu que beaucoup répondraient oui, je suis dans la souffrance. Qui est dans la souffrance ce matin? Il n'y a pas de honte à être dans la souffrance. Eh bien, voilà. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Quelle est la prescription de Dieu? Quel est le remède, l'antidote? Eh bien, la parole de Dieu répond, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Il y a des gens qui ont célébré leur anniversaire et tout ça, moment de joie. Eh bien, qu'ils chantent des cantiques. N'est-ce pas aussi une occasion de se tourner vers le Seigneur pour le louer avec nos chants, avec nos cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante ou littéralement, la prière énergique du juste a une grande efficacité ou littéralement a une grande force. Force pour déplacer les montagnes. Force pour détruire tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Élie, on nous donne maintenant une illustration de cette vocation d'être un homme ou une femme de prière. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit du fruit. Et gloire au Seigneur. En tant que pentecôtiste, en tant qu'évangélique, en tant qu'homme et femme ayant fait l'expérience de la nouvelle naissance après avoir rencontré le Seigneur, Eh bien, nous connaissons tous la place que la prière est appelée à occuper dans notre relation avec le Seigneur, mais aussi dans notre relation sur le plan horizontal, c'est-à-dire sur le plan fraternel, mais aussi dans notre relation envers le monde. Car nous sommes toujours sur cette terre, nous sommes environnés par toutes sortes de réalités dont la plupart nous sont hostiles, dont la plupart sont d'inspiration satanique, et toutes ces réalités essayent par tous les moyens, mes amis, de nous mettre au pied du mur, de nous mettre les bâtons dans les roues. Toutes ces réalités essayent par tous les moyens de détruire notre foi, de détruire notre communion. Eh bien, par rapport à toutes ces réalités, par rapport à la communion fraternelle, à l'amour fraternel que nous sommes appelés à avoir les uns avec les autres, mais aussi par rapport au Seigneur, eh bien, nous voyons que la prière est vraiment au cœur de notre relation avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous parlons de la prière d'intercession. Et vous savez tous ce que cela veut dire, intercéder. Intercéder, c'est intervenir en faveur de quelqu'un. Et quand nous parlons de la prière d'intercession dans l'Église, eh bien, nous parlons de cette vocation à laquelle le Seigneur nous appelle, qui consiste à nous tenir devant Dieu et ce en faveur des autres. Nous tenir devant Dieu et ce en faveur, eh bien, de ce monde qui se perd, ce monde manipulé par des puissances des ténèbres, ce monde, mes amis, sous l'emprise des forces du mal. Et donc, nous avons une responsabilité. Nous devons prier, nous devons prendre ce monde, prendre nos villages, nos cités, nos quartiers, prendre nos villes, nos pays, et mes amis, et le porter à Dieu, afin que le Seigneur puisse guérir nos nations, qu'il puisse débarrasser nos villes de toutes ces tares sociales qui les détruise, afin qu'il puisse arrêter, mes amis, cette machine infernale d'immoralité qui s'abat de plus en plus sur notre monde. Oui, le Seigneur voudrait faire de grandes choses parmi nous. Le Seigneur voudrait faire de grandes choses en nous. Le Seigneur voudrait faire de grandes choses au travers de nous. Cependant, il y a des choses qui doivent être faites en aval, alors seulement en aval, nous vivrons ces grandes choses-là, ces choses magnifiques, ces œuvres glorieuses, encore une fois comme nous l'avons vu pendant 3 semaines, ces œuvres glorieuses qu'il a préparées d'avance. Dieu sait, mes amis, ce que nous serons demain. Dieu sait où nous serons. Et il a préparé des choses glorieuses. Et c'est donc à nous de marcher dans ces choses. Et nous ne pouvons marcher dans les choses qu'il a préparées d'avance. Ces œuvres que la Bible nous présente comme étant des œuvres glorieuses et merveilleuses, comme nous l'avons vu. Si, mes amis, nous n'avons pas une intimité. Si, mes amis, nous ne nous laissons pas conduire par le Saint-Esprit. Car, in fine, c'est donc le Saint-Esprit qui est appelé à nous conduire dans le plan de Dieu, qui est appelé à diriger nos pas dans les voies que le Seigneur a préparées pour chacun de nous. Alléluia. Je suis convaincu que le Seigneur est à l'œuvre dans notre Église, comme il est à l'œuvre dans d'autres assemblées. Mais en même temps, je suis de ceux qui ne sont pas satisfaits, qui trouvent que nous devrions aller au-delà. Il n'y a pas une seule étape dans la vie du chrétien ou dans la marche d'une communauté ou d'une église qui puisse amener les uns et les autres à se dire « Enfin, nous sommes arrivés au sommet du savoir, au sommet de la connaissance. Maintenant, avec Dieu, eh bien, je n'ai plus besoin de jeûner, je n'ai plus besoin de prier. Lui, avec moi, c'est face à face, etc. » Pas du tout. Nous sommes tous à l'école du Saint-Esprit. Nous sommes tous appelés à faire des progrès, à grandir, mes amis. Et le premier domaine dans lequel nous sommes appelés à grandir, c'est le domaine qui est de la relation, mes amis, du contact permanent avec lui. Car ce Dieu-là veut que nous grandissions à tous égards, que nous croissions spirituellement, que nous croissions moralement. Voyez-vous, à travers toute la parole de Dieu, nous pouvons voir la place qu'occupe la prière d'intercession. Et une église qui prie, une église qui intercède, une église qui a compris la place que l'intercession est appelée à occuper, eh bien, croyez-moi, cette église-là est la seule qui est en mesure de pouvoir secouer sérieusement le cocotier des ténèbres pour que ce fruit immonde, ce fruit mortifère puisse tomber. Et non seulement secouer le cocotier des ténèbres et laisser ce fruit mortifère tomber, mais même arriver à déraciner tous ces arbres que le diable a plantés un peu partout dans le monde et qui produisent de fruits toxiques. Oui. Notre civilisation est malade. Le péché atteint des proportions à peine imaginables. Les valeurs s'écroulent, s'érodent. L'enfer verse, déverse sa suie, mes amis, sa saleté, ses vomissures sur notre monde aujourd'hui, avec toutes les conséquences que nous voyons. Un monde malade, un monde qui est de plus en plus rongé, gangréné par tout ce qui est immoralité, par tout ce qui est idolâtrie. Il y a aujourd'hui un intérêt de plus en plus croissant, surtout ici chez nous au Congo, pour des sciences occultes, pour l'ésotérisme. Il y a même des gens qui fréquentent l'Église, qui disent être convertis, et qui par après se retrouvent dans des cénacles mystiques, dans des réunions au cours desquelles le nom de Jésus n'est pas honoré, mais plutôt des forces démoniaques qu'on essaye de nous faire penser comme étant des pensées philosophiques que l'homme doit comprendre. Je n'ai pas besoin d'une philosophie, quelle qu'elle soit, pour comprendre ce monde. La parole de Dieu me donne la vraie vision de ce qu'est notre monde. Nous devons prêcher contre ces choses. Il y en a pour avoir un poste, sont prêts à se fourvoyer dans ces choses, parce que le chef y est, parce que le patron y est, parce que le directeur y est. Alors on essaye de tout faire, et pour être avec lui, on accepte tout cela. Écoutez, la mort est dans le pot. Nous devons nous insurger. Jésus nous veut à lui seul. Jésus est pleinement et tout puissant pour nous protéger, au point où nous n'avons pas besoin d'aller chercher un féticheur, un ganga, que sais-je, pour nous donner quelques gris-gris qui nous apporterait de la chance, qui nous mettrait à l'abri, par exemple, des attaques démoniaques. Non, Jésus a tout accompli. En son nom, nous sommes plus que vainqueurs. Il a dépouillé les autorités démoniaques à la croix. Mon frère, n'humilie pas ton sauveur en voulant aller manger à tous les râteliers, en cherchant à boire à toutes les sources, au risque de boire à des sources qui sont toxiques. Oui, une église qui prie, une église constituée d'hommes et de femmes qui se tiennent devant le Seigneur, qui se tiennent à la brèche pour intercéder, mes amis, est une église capable de faire trembler les portes de l'enfer. Jésus a dit, je bâtirai mon église, et rien ne prévaudra contre elle. Rien ne pourra prendre l'avantage, c'est ça le verbe prévaloir, ne pourra l'emporter sur elle. Aucun démon, aucune puissance des ténèbres, aucune entité spirituelle, mes amis, n'est en mesure d'inquiéter l'Église, la vraie Église. Pourquoi? Parce que le chef de l'Église est celui qui a vaincu à Golgotha. Sur ce, je prends un peu d'eau. C'est aussi spirituel, hein? Ça montre que, bien que nous soyons des prédicateurs de la vérité de Dieu, nous demeurons des êtres de chair, tout en étant cher au Seigneur, et alors qu'il nous fait la grâce d'être derrière la chair, gloire à Dieu. Donc c'est une église qui fait trembler les portes des ténèbres, les portes de l'enfer. Et je vous dirai, dans notre ville de Kinshasa, comme du reste dans toutes les grandes villes, l'ennemi est arrivé à distraire les églises. L'ennemi est arrivé, mes amis, à distraire les enfants de Dieu, à distraire les serviteurs de Dieu, qui aujourd'hui courent après la célébrité, après la notoriété, courent après la reconnaissance. Je dois être reconnu comme apôtre, comme bishop, comme trichope, quadrichope. Courent après des choses qui vont passer. Le Seigneur ne nous demande pas ça. Il nous demande de prêcher la parole. Il nous demande d'être des hommes et des femmes de prière. Gloire à Dieu. Dieu ne fait rien, sinon qu'en réponse à la prière. Oh, alléluia. Et le Seigneur lui-même, notre modèle par excellence, eh bien, a prié tout au long de sa vie. Il nous a laissé un bel exemple. Voyez-vous, il a enseigné la prière. Il nous a montré, il nous montre encore par sa parole, l'urgence de la prière, la nécessité de la prière, son importance majeure et capitale. Et au-delà de tout l'enseignement qu'il nous a laissé, lui-même a été un homme de prière, alléluia. Il nous a laissé, il a ouvert la voie. Et nous ne pouvons pas, mes amis, aller plus loin sur cette voie qu'il a ouverte si nous ne sommes pas des hommes et des femmes qui intercèdent, des hommes et des femmes dont le caractère est peaufiné, dont le caractère est travaillé, dont le caractère, mes amis, est affiné dans la présence du Seigneur, alléluia. Comme je l'ai dit une fois, et comme je sais que vous avez une mémoire éléphantesque, vous allez vous souvenir, quand nous nous mettons en prière, c'est que nous entrons dans l'atelier de Dieu, le divin potier. Et là, dans son atelier, eh bien, nous nous plaçons entre ses mains, et lui, en divin potier, il fait quoi? Il travaille. Il nous donne la forme qu'il a prévue. Alors ne cherche pas à être quelqu'un d'autre que ce que Dieu a prévu. Il a donné aux uns d'être ceci. Aux autres, d'être cela. Une image, l'image d'ailleurs, elle est très parlante, que l'apôtre Paul utilise pour illustrer la réalité de l'Église dans sa... Une Église qui est une, mais également au sein de laquelle il y a diversité de personnes, diversité de dons et de talents. Eh bien, l'apôtre Paul utilise, eh bien, cette image, cette métaphore de l'Église comme étant un corps humain. Et dans ce corps, nous avons différents membres, oui ou non? Et vous aurez remarqué que, eh bien, tous les membres ne sont pas concentrés dans la même partie du corps. Oui ou non? Eh bien, les doigts sont là. Ils ne pourront jamais dire aux orteils, écoutez-vous, on ne vous voit pas, malheureux. D'ailleurs, vous êtes tout le temps enfermés, et quelquefois enfermés dans des baskets qui puent, comme on dit, comme des hyènes. Comme la laine des hyènes. Mais les doigts, si les doigts se moquaient des orteils, et que les orteils disaient, ok, moi avec les pieds, puisque nous sommes inséparables, eh bien nous allons nous détacher du corps. Qu'est-ce que les doigts feraient? Nous avons besoin des pieds, non? Pour marcher. Tu ne peux pas tenir debout, hein? Il y a toute cette machinerie. Hein? Voilà. Si maintenant l'oreille dit, mais toi, les doigts, je n'ai pas besoin de toi. Mais les doigts disent, ok. Tu auras de moi, mais comment tu vas travailler? Donc vous voyez, chaque élément est important dans le corps. Et celui qui a créé le corps et qui a placé les membres, chacun à sa place, est aussi celui qui est en train de bâtir l'Église avec des âmes qu'il a transformées, des âmes avec des vies qu'il est en train de transformer. Et ces âmes, lorsque elles se convertissent, le Seigneur le plante et les introduit dans son Église. Lui seul sait exactement à quelle partie du corps j'appartiens. Alors je ne peux pas m'épanouir véritablement. Je ne peux pas aller de victoire, de gloire en gloire, si je n'occupe pas la place qu'il m'a assignée dans son corps. Or aujourd'hui, tout le monde veut être pasteur. Dieu m'a appelé. Je suis tout à fait d'accord que Dieu appelle qu'il veut, il est souverain. Mais aujourd'hui, vous conviendrez avec moi qu'il y a une sorte d'opportunisme, un esprit d'aventurisme qui fait que maintenant tout le monde cherche à être pasteur. Et quand on devient pasteur, eh bien, on veut, alors qu'on n'a qu'un an, deux ans, trois ans, cinq ans dans le ministère, on veut tout de suite être comme le pasteur Bondo. Vous pensez qu'il y a 30 ans, je prêchais comme je prêche aujourd'hui? Non. Voilà. On veut tout de suite. Alors, on organise des réunions, des conférences, on fait venir des prédicateurs qui viennent d'Argentine, qui viennent d'Inde et tout ça. En réalité, moi je sais, hein. C'est pourquoi je ne réponds pas à n'importe quelle invitation. Parce que je sais que certains cherchent à nous utiliser simplement pour que les gens viennent et disent, d'ailleurs le pasteur Bondo il sera en bord, token. Mais oui, j'avais dit à un pasteur, moi je n'ai pas besoin de me mettre sur un piédestal, je suis qu'un simple serviteur. Non, voilà, je m'occupe de l'église que le Seigneur m'a confiée, je ne veux pas m'éparpiller. Dans la vie, je l'ai souligné encore hier au mariage, puisque j'ai été amené à venir à un mariage à la Gombe, je leur ai dit, dans la vie, il faut se concentrer sur l'objectif qu'on s'est fixé. Et en tant qu'enfant de Dieu, notre objectif primordial, c'est de plaire au Seigneur, c'est de faire ce qu'il attend, et non pas s'éparpiller. Et comme je l'ai dit, j'ai pensé à ce que les Anglais disent. Nos amis anglais, il semble qu'ils ont gagné hier. Papa Kabanta, tu n'as pas regardé? Non. C'est rien, c'est pour rigoler. Donc, les Anglais disent qu'il faut se satisfaire d'un oiseau dans sa main que d'essayer d'en attraper deux dans le buisson. C'est bien dit, hein? Contente-toi de celui que tu as. À vouloir avoir les deux qui sont là-bas, tu risques de perdre même celui que tu as dans la main. Oui ou non? Et puis, il n'y a rien qui te garantit qu'avec les deux oiseaux, tu arriveras à les attraper en même temps. Alors, contente-toi de ce qu'il y a. C'est que Ésope, un auteur qui a vécu avant le Christ, a dit, si je puis me souvenir, le chien qui lâche sa proie pour l'ombre n'a ni ombre ni corps. C'est-à-dire, quand le chien poursuit une proie, hein, n'est-ce pas? Il court. Mais en même temps, cette proie a une ombre, non? Maintenant, si à un moment il est distrait, il se tourne à courir après l'ombre, eh bien, il va perdre les deux. Il va perdre le corps, enfin, sa proie, mais il va perdre l'ombre aussi, parce que l'ombre, c'est quoi? C'est le reflet du corps, non? Alors, si maintenant tu te mets à courir, tu te palpilles, tu cours après l'ombre, tu n'attraperas jamais. Donc, tu perdras et la proie, Nyamayakuria. Ensuite, l'ombre. Et au bout d'un certain temps, le chien va s'arrêter. Bredouille. Il l'aura tout perdu. Donc, concentrez-vous sur l'essentiel. Ne cherchez pas à ce que le monde vous reconnaisse, que l'Église reconnaisse. Cherchez la reconnaissance qui vient de la part de Dieu. En son temps, le Seigneur te placera quelque part. Et même s'il te place quelque part, il n'est pas dit que tous les membres du corps sont visibles. Il y en a qu'on ne voit pas. Est-ce que vous voyez l'estomac? Est-ce que vous le voyez, votre estomac? Et pourtant, dès que ça ne va pas, il te le fait sentir, pour certains peut-être déjà maintenant. Votre ventre commence à gargouiller. Vous voyez? Et pourtant, vous ne le voyez pas. Et pourtant, il est là. Donc, n'essayez pas de vous mettre sous le projecteur. Vous pourriez être aperçu par une servante de l'ennemi. Vous savez, quand vous êtes à la lumière, maintenant, tout le monde vous voit. Hein? Vous devenez beau. Quand vous passiez inaperçu avec votre Bible quelque part, personne ne vous voyait. Vous passiez, les gens parlaient, et puis hop, bagnatio. Ok. Voilà, vous avec votre Bible, vous allez de rue en rue, vous parlez, il n'y a personne qui s'intéresse à vous. Voilà. Et puis petit à petit, et puis après, on vous donne la charge de diacre. Vous passez diacre, vous faites la sainte scène. Là, on vous voit un tout petit peu. Et encore. Et puis, après, diacre, oh non, ancien, vous commencez à prêcher. Là, les gens commencent à vous voir. Oui ou non? Et puis, un jour, vous devenez pasteur. Alors là, c'est tout le monde qui vous voit. Vous allez au deuil, vous prêchez. Dans des mariages, vous prêchez. Et partout. C'est là que les choses peuvent se compliquer. Parce que maintenant, vous êtes sous les projecteurs, sous les phares. Autrefois, vous passiez, personne ne pouvait imaginer que la calvitie Voilà. La calvitie, eh bien, commençait déjà à prendre forme. Les gens vous regardaient seulement comme ça, winner, c'est tout. Voyez. Maintenant que vous vous tenez devant, eh bien, tout le monde vous scrute, vous regarde de pied en cap. Ah, tiens, il commence à attraper des cheveux blancs ou gris. Ah, lui, il n'aimait pas le yombo, je crois. Je ne sais pas si ce produit est toujours à la mode ou bien à d'autres. Vous voyez, comme ça, les gens... Comme, oh, tiens, oh là là, quelle cravate il a mise. Ah oui, mais ça ne concorde pas avec la chemise. Voilà. Alors, quand vous étiez diacre, vous étiez... personne ne pouvait s'imaginer. Vous pouviez vous habiller comme un clown. Vous voyez. Chemise rouge, cravate jaune, chaussures vertes. Eh bien, vous passez sans problème. Mais dès que vous passez devant... Et que vous vous habillez de cette manière, oh là 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 là. Oh, yo, yo, yo. Mais, pour ceux qui viennent d'Europe et qui ont vécu en Europe, ils disent, mais j'ai l'impression d'être au carnaval de Binche. Voilà. Il dit, c'est quoi ça, ces histoires? Et puis on se renseigne, il dit, mais tiens, c'est qui? Non, c'est les pasteurs. Bon, enfin, je sais qu'il y en a qui trouvent. Hein. Il dit, des pasteurs sapeurs. Bon, moi, je voudrais être un sapeur-pompier du Seigneur. Donc, à la suite du Seigneur, pour avancer très vite, à la suite du Seigneur, nous voyons que les apôtres eux-mêmes ont compris la nécessité, la vitalité, l'importance de la prière. La prière d'abord pour eux-mêmes, la prière pour le salut des âmes, pour leur apostolat, pour leur ministère. Ils l'ont compris, et nous le voyons, mes amis, lorsque l'Église de Jérusalem a été confrontée à des problèmes. Nous sommes dans Actes chapitre 6. Lorsque cette église a été confrontée à des problèmes, quel était le problème majeur? Avec des conséquences terribles, au risque d'arrêter l'œuvre de Dieu. C'est qu'à un certain moment, dans cette église de Jérusalem, vous aviez deux grandes communautés. Vous aviez des juifs de la diaspora, qu'on appelait les hellénistes parce qu'ils venaient du monde, ils parlaient grec et tout ça. C'était donc des juifs de la diaspora. Et puis l'autre communauté, c'était donc des juifs qui vivaient en Israël. Alors, l'Église avançant, les âmes étant de plus en plus gagnées à Christ, rejoignant l'Église, eh bien les problèmes ont surgi. Les hellénistes, les juifs de la diaspora, dont certains ne parlaient plus hébreu, eh bien se sont rendus compte que leurs veuves étaient négligées dans la distribution des repas, dans la manière de les traiter. Et ils ont trouvé que les veuves des Israélites, non, des Hébreux, c'est-à-dire des Juifs qui vivaient en Israël, étaient mieux considérés, mieux servis quand il fallait donner à manger, etc. Alors, ça entraînait des murmures, ça entraînait des tensions entre les deux communautés. Comment les apôtres ont-ils approché ce problème? Comment l'ont-ils abordé? Eh bien, dans Actes 6, il nous est dit, les 12, par rapport à cette situation, verset 2, les 12 convoquèrent alors la multitude de disciples et dirent, écoutez maintenant, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Il ne convient pas que nous délaissions ce qui est prioritaire pour nous occuper de l'administration matérielle, de la distribution de ceci ou de cela. Et ils poursuivent, c'est pourquoi frères, choisissez parmi vous cet homme, dès qu'il en rend un bon témoignage. Vous voyez, c'est d'abord le bon témoignage. Vous pouvez parler en langue, ce n'est pas ça que nous devrions normalement prendre en considération s'il faut te responsabiliser. Ce n'est pas non plus les ailes. Vous voyez, c'est d'abord les critères moraux. C'est d'abord le témoignage. Le témoignage n'a pas de prix. Hein. Donc, desquels ou dès qu'il en rend un bon témoignage, rempli de l'esprit, le Saint-Esprit, et de sagesse. Ah oui, la sagesse. Et je peux vous dire que la sagesse vient souvent avec l'âge, hein, avec l'expérience. C'est pourquoi la Bible nous dit, attention, nous met en garde des responsabilités de jeunes dans la foi. Voyez, parce que nous sommes dans un univers qui demande plus de connaissances de la parole, hein, plus de comment, d'expérience avec le Seigneur, etc. Mais enfin, nous avançons et nous les chargerons de cet emploi. Ces gens, ces sept-là, remplis du Saint-Esprit, ayant un bon témoignage, remplis de sagesse, eh bien, nous allons les charger pour cela. Et ils vont s'occuper. Et ils ajoutent, écoutez maintenant, pour nous, les apôtres, nous persévérerons dans la prière et dans le service, gloire à Dieu. Regardez, mes amis, ils ont discerné que là, il y avait un piège d'être distrait. S'éparpiller, aller vouloir prendre soin de veuves, ah, ça va, tout ça, est-ce que toi tu as réussi? Non, 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 ça... Elle dit non, 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 non. Ça risque de nous absorber, ça risque de nous bouffer toute l'énergie, au risque de délaisser ce qui est prioritaire. C'est à quoi le Seigneur nous a d'abord et avant tout appelés. C'est-à-dire la prière, et puis ensuite la prédication de la parole. Remarquons, et vous l'avez remarqué avec moi, que la prière est mise ici en premier lieu. En premier lieu, il y a quoi? Il y a la prière. Nous allons persévérer. Nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à intercéder. Nous allons continuer à porter l'Église, cette Église de Jérusalem, dans la prière. Nous allons prier pour que l'Évangile soit prêché, que les âmes soient gagnées. Quant à nous, pour nous, eh bien, nous persévérerons dans la prière, premièrement, dont ils ont compris que leur premier devoir, ce n'était pas d'être à gauche, à droite, répondre à toutes les invitations, mais d'abord de prier. Et dans cet exercice, ils ont compris que ces devoirs étaient fortement recommandés. Se donner eux-mêmes continuellement à la prière, et puis ensuite, au ministère de la parole. Et résultat, regardez au verset 7. Résultat, la parole de Dieu se répandait, ou littéralement, la parole de Dieu croissait. Le nombre de disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Vous vous rendez compte, mes amis? L'Église a prospéré. L'Église a grandi parce que les apôtres ont mis les choses à leur place. Ils ont mis les priorités à leur place. La prière et la prédication et l'enseignement de la parole. Mes amis, avant de terminer, l'Église à l'époque apostolique était une Église, mes amis, qui s'est donnée d'abord et entièrement à cette œuvre divine que la prière. Cette Église avait appris à se tenir d'abord devant Dieu, à passer du temps avec Dieu avant d'aller passer du temps avec les hommes. La prière, c'est une œuvre divine. C'est quelque chose de merveilleux. Vous comprenez pourquoi les apôtres à un moment ont dit au Seigneur, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Nous n'apprendrons jamais à prier. Il y a quelque temps, d'ailleurs, je reviendrai là-dessus, hein, comme je dois continuer avec le message sur les armes spirituelles qui sont puissantes devant Dieu. Nous avons parlé de deux armes majeures. La parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit, et ensuite la prière par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Vous voyez? Donc, nous devons apprendre à prier. Prier par l'esprit. Ça ne s'apprend pas en un jour. Et il n'y a personne qui puisse dire, j'ai 35 ans de conversion. Donc ça veut dire que j'ai déjà mon doctorat en prière. Je suis spécialiste de l'intercession. Non. Nous sommes tous à l'école du Saint-Esprit. Nous sommes tous appelés à apprendre. Parce que la prière, c'est ce mouvement de notre âme vers le Créateur. Et on ne peut pas comprendre le Créateur, même cette vie ici-bas, marquée par la prière quotidienne, et qui serait une vie centenaire, ne suffirait pas pour connaître le Dieu de la Bible. Il est au-delà de tout ce que nous pouvons nous imaginer. Mais cependant, grâce à ce moment passé ensemble avec lui, eh bien, il nous donnera la capacité de comprendre des vérités qui sont vitales, de comprendre des choses dont nous avons besoin. Alléluia. Oui, c'était une église qui priait, qui intercédait. Donc, l'intercession reste une vocation qui échoit à tous les chrétiens. On ne peut pas se dire, non. C'est vrai que nous avons un groupe d'intercession, mais ce groupe ne peut pas prétendre avoir le monopole de l'intercession. Non, pas du tout. C'est une vocation que le Seigneur nous adresse. Nous ne sommes pas tous appelés à être prédicateurs de la parole, à être pasteurs, à être évangélistes, à être docteurs de la parole, à être apôtres, n'est-ce pas? Mais il y a un ministère, une vocation qui est commune à tous les disciples du Christ. Une vocation qui constitue notre véritable dénominateur commun. C'est le ministère de la prière, l'intercession. C'est tenir devant Dieu pour soi-même, mais comme ici c'est notre titre, c'est tenir devant Dieu en faveur des autres, en faveur de notre assemblée, en faveur des autres églises, en faveur de notre ville de Kinshasa, en faveur de notre pays, en faveur des autres pays. Si nous nous engageons, mes amis, à prier, eh bien, nous ne vivrons pas cette époque terrible qu'Israël a connu à l'époque d'Ézéchiel, où le Seigneur dit, vous connaissez ce passage, dans Ézéchiel, oh là là, 22 je crois, verset 30, « Je cherche un homme qui se tienne devant moi et qui intercède en faveur du peuple et du pays. » Un homme qui se tienne devant moi, alléluia. Un homme, eh bien, qui passe du temps et qui amène Dieu à intervenir dans les affaires des hommes. Et malheureusement, à l'époque d'Ézéchiel, il en a cherché et il est arrivé à ce constat terrible. Il dit, je n'en ai pas trouvé. Sa colère était sur le point de s'éclater. Au verset 30 d'Ézéchiel 22, il dit, je cherche un homme parmi eux qui les protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche, devant moi, pas n'importe où, hein, devant moi, en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit par sa colère, évidemment, mais malheureusement, je n'en trouve pas. Mais que le Seigneur puisse en trouver des intercesseurs ici à la borne, des gens qui se tiennent à la brèche, qu'il puisse trouver des intercesseurs dans cette ville de Kinshasa, dans des assemblées, des hommes et des femmes qui se tiennent devant lui et qui intercèdent pour lui. Alléluia. Nous allons passer un moment maintenant dans la prière, un moment dans l'intercession. Et je vous prie de vous lever. Je vais donc demander à Winner de conduire ce moment d'intercession. Quant à moi, eh bien, je me libère pour aller aux obsèques. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Pensez à moi dans vos prières.